Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Hélène Destombes.
Les Caritas africaines et plusieurs ONG françaises au chevet de la Centrafrique, les organisations dénoncent l'abandon de la population et évoquent une urgence humanitaire. Témoignage dans cette édition d'un porte-parole de MSF et de l'archevêque de Bangui. Le Québec est en deuil après la mort de dizaines de personnes dans l'explosion d'un train à Lac-Mégantic. Vous entendrez Mgr Luc Cyr, archevêque de Sherbrooke. Il revient sur la tragédie. Nul n'est une personne sans avoir été d'abord un embryon humain. Mgr Dornelas l'a rappelé en souhaitant un large débat à la veille de l'examen en France à l'Assemblée nationale de la proposition de loi concernant la recherche sur l'embryon. Bienvenue dans ce magazine. Face au chaos qui règne en Centrafrique, des ONG françaises et les Caritas africaines s'alarment du drame vécu par le peuple centrafricain. Les participants à la rencontre des secrétaires et directeurs nationaux des Caritas de la région Afrique qui se sont réunis à Nairobi au Kenya du 1er au 5 juillet ont exprimé leur indignation face aux souffrances infligées à la population civile innocente. Dans un document envoyé à l'agence Fides, ils disent saluer et soutenir les efforts courageux et prophétique entrepris par l'Église en République centrafricaine afin de redonner espoir aux populations dans la souffrance et prévenir l'extension de cette crise. Les Caritas africaines réaffirment leur solidarité au peuple centrafricain et lancent un appel aux institutions internationales pour qu'elles mettent immédiatement un terme à cette situation. Elles demandent par ailleurs aux évêques, réunis du 8 au 15 juillet à Kinshasa dans le cadre de l'Assemblée plénière du Symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar, d'affronter cette question avec les évêques centrafricains et d'autoriser le lancement de collectes de dons au sein des églises afin de soutenir les populations centrafricaines. 5 ONG françaises ont par ailleurs dénoncé mardi l'abandon de la Centrafrique. Dans un communiqué commun, Médecins sans frontières, Action contre la faim, Médecins du monde, Première urgence, Aide médicale internationale et Solidarité internationale fustigent l'insuffisance de la présence des Nations unies sur le terrain et le manque de financement par la grande majorité des bailleurs de fonds, dont certains conditionnent leur financement à une réinstauration de la sécurité, un statu quo que les ONG qualifient d'aussi incompréhensible qu'inacceptable. Pour André Mingère, responsable pour Médecins sans frontières des programmes en République centrafricaine, la communauté internationale doit considérer la Centrafrique comme l'une de ses priorités. On l'écoute.
La saison des pluies vient de commencer. Et il y a 3 risques majeurs qui pèsent pour la population au niveau santé. La première et qui est tout de suite immédiate, c'est le paludisme, la malaria. Les gens ont été en bonne partie aussi obligés de quitter leur village pour se réfugier en brousse. Et donc aujourd'hui, beaucoup de malaria chez les enfants et peu de services pour en prendre soin. Donc les cas qui augmentent de façon très importante. Donc ça, c'est une chose. La deuxième, c'est les maladies qui peuvent être évitées par la vaccination. Déjà, la vaccination de routine se faisait très difficilement. Là, à peu près pas du tout. Et il y a des cas d'ougeol à peu près sur tout le territoire centrafricain. Et puis, il y a le problème de la nutrition. Il y a eu des pillages sur les réserves alimentaires. Les récoltes n'ont pas été aussi bonnes que prévues. Donc, on s'attend dans les prochains mois à ce problème de malnutrition important. Il faut faire absolument quelque chose aujourd'hui.
Qu'attendez-vous des Nations unies?
On attend pas mal plus que ce qu'ils font aujourd'hui. Depuis le début de la crise depuis le mois de mars. Les agences des Nations unies sont presque complètement absentes. En tout cas, elles sont présentes, mais en nombre très restreint sur Bangui. Et sur l'intérieur du pays, elles ne sont pas là. Donc, ils ne peuvent pas avoir une visibilité de ce qui se passe. Déjà, nous, on est là en support à 9 hôpitaux et à peu près 36 structures de santé, toutes les sections MSF confondues, mais ça ne sera jamais suffisant.
Les bailleurs de fonds, ils exigent, avant de débloquer donc des fonds, que la situation politique s'améliore, mais c'est loin d'être le cas.
C'est pas évident. Une des premières conditions qui est demandée, et puis c'est logique, hein, c'est la sécurité, et puis on est bien placé pour le savoir, Il y a moyen de faire des opérations actuellement en Centrafrique, malgré la sécurité qui est quand même restreinte. La preuve, on le fait, mais il y a un prix à ça. Mais ce qui est clair, c'est que cette sécurité-là ne sera possible dans le moyen et long terme que si l'ensemble de la structure étatique et de la société civile au niveau de la Centrafrique sera plus forte. Donc, et ça, à mon sens, ça passe beaucoup par l'éducation, par un système éducatif qui se veut performant. Et puis, à la longue, là, on réussira à implanter des programmes avec des ministères, avec des gens qui ont les connaissances suffisantes, etc. Mais c'est vrai que là, dans l'immédiat, il faut trouver une solution pour rétablir un minimum d'ordre dans le pays pour pouvoir mettre tout ça en œuvre.
Des propos recueillis par Audrey Radondi. Monseigneur Dieudonné Nzapalenga, l'archevêque de Bangui, avait signé la semaine dernière, aux côtés de 9 organisations humanitaires présentes en République centrafricaine, un document sous forme d'appel à l'aide faisant état d'une véritable urgence humanitaire. Le texte dresse un cadre dramatique de la situation en Centrafrique, notamment en termes de sécurité, quelques mois après la fuite du président François Bozizé et l'arrivée au pouvoir de Michel Djotodia, responsable de la coalition rebelle Séléka. Une insécurité croissante qui touche surtout les plus faibles, les enfants et les femmes. On écoute Mgr Nzapalenga.
Nous avons des rebelles qui ont pris le pouvoir et depuis un certain temps, la situation sécuritaire s'est détériorée et nous avons des hommes, des femmes qui se sont réfugiés dans la brousse et qui ont peur, ils ne peuvent pas sortir et ces gens qui n'ont pas eu l'occasion de planter et qui se retrouvent dans des petites huttes, ces hommes, ces femmes sont en train de mourir parce que c'est la saison de pluie, il y a le malaria, il n'y a pas aussi des médicaments pour donner à toutes ces personnes. Et dans l'arrière-pays, il existe des insécurités. Il y a un problème de couloir humanitaire. Tous ces jeunes en armes qui sont le long de la route, qui ont installé des barrières illégales ou les barrières légales, je ne sais pas quel côté on se situe, ils sont en train de racketter des gens. Et ça ne permet pas à ce que les humanitaires puissent se déplacer. Et les humanitaires aussi ont peur parce qu'ils peuvent être enlevés. Tout cela crée une instabilité.
Qui sont les personnes les plus vulnérables? Cette insécurité menace en particulier les enfants?
Cette insécurité touche en particulier les enfants. Depuis un certain temps, beaucoup d'enfants ne partent plus à l'école. Et je parle avec beaucoup d'amertume et de souffrance, car tous ces enfants qui n'avaient plus de scolarité, certains, hélas, se retrouvent dans ce conflit armé, habillés en hommes en tenue. Et c'est dramatique. Là, je pense que tous ceux qui sont responsables, tous ceux qui continuent à recruter, doivent prendre des décisions, libérer ces enfants, qu'ils puissent retourner à l'école, qu'ils puissent avoir un autre projet que de pouvoir être des chairs à canon ou être utilisés à des desseins politiques où ils ne sont pas à mesure d'assumer les conséquences. Les personnes aussi touchées par ça sont des femmes. Voilà les personnes vulnérables. Ces femmes qu'on viole, ces femmes qu'on est en train de tuer. Il faut aussi penser à ces femmes-là. Les gens en armes, quand ils arrivent, ils les utilisent, on les viole, on les torture. Et ces femmes-là, maintenant, sont bâillonnées. Et il va falloir aussi donner un mot ou dire quelque chose concernant ces femmes-là, les aider. Et ça passe par la prise en compte aussi, le respect. Finalement, et la dignité de la femme.
Crise humanitaire, insécurité croissante, alors que le nouveau pouvoir centrafricain apparaît de plus en plus divisé.
Le nouveau pouvoir apparaît divisé. Il y a un grand problème de chaîne de commandement. Et s'il n'y a pas une chaîne de commandement unique et que nous avons plusieurs factions, comme ça se dessine dans le pays, nous risquons d'avoir un sanctuaire où nous avons des gens qui vont partir de l'Union africaine pour pouvoir déstabiliser d'autres pays. Ça pourrait être le cas du Tchad, ça pourrait être le cas du Cameroun, ça pourrait être le cas du Congo démocratique, le cas du Congo-Brazzaville, le cas du Soudan du Sud. À ce niveau, ceux qui ont pris le pouvoir, s'ils veulent vraiment que les choses changent, ils ont intérêt à mettre la bouchée double, c'est-à-dire à instaurer une cohésion entre eux-mêmes et aussi une chaîne de commandement unique. Ainsi, on pourra avoir une visibilité et savoir à qui s'adresser. Car les groupes qui sont multiformes et qui obéissent à leur chef, vraiment, ce sont des groupes qui semblent être autonomes. Et ça pose des grands problèmes actuellement pour nous. Nous ne savons pas à quel interlocuteur. cœur nous adresser à chaque fois et c'est source d'inquiétude.
Monseigneur Dieudonné Zapalenga, l'archevêque de Bangui. Le pape François avait exprimé en juin dernier sa proximité avec la population de la République centrafricaine, l'encourageant à l'espérance et à la foi. Les enquêteurs québécois poursuivent leurs investigations après l'explosion meurtrière d'un convoi de wagons-citernes dans la bourgade de Lac-Mégantic, située à 200 km à l'est de Montréal, dans la province de Québec, au Canada. Ils envisageaient mardi la piste de la négligence criminelle, mais la société ferroviaire américaine en cause a rejeté toute responsabilité. De nouveaux corps ont été découverts dans la zone dévastée par l'explosion du train dans la nuit de vendredi à samedi et une quarantaine de personnes sont toujours portées disparues. Après l'incendie qui s'est élevé jusqu'à près de 300 mètres dans le ciel de cette bourgade touristique de 6000 habitants, les autorités se préparent désormais à une catastrophe écologique majeure. Quelques 100 000 litres de pétrole provenant des réservoirs accidentés se sont déversés dans la rivière Chaudière et pourraient atteindre rapidement le fleuve Saint-Laurent. Le pape François a exprimé sa proximité spirituelle avec les familles endeuillées par ce drame par le biais d'un message publié mardi et signé par le cardinal secrétaire d'État Tarcisio Bertone. Manuela Figi a recueilli la réaction de Mgr Luc Cyr, archevêque de Sherbrooke, dont dépend Lac-Mégantic.
La population est encore sous le choc. C'est un centre-ville dévasté. Il y a beaucoup de tristesse et aussi de colère devant un tel événement. Mais en même temps, ce qui est beau, c'est que toute la solidarité, l'entraide qui est suscitée, et les messages qui arrivent de partout.
Messages qui arrivent de partout, dont celui du pape François.
C'est exactement. Le pape François a été une grande consolation pour l'équipe pastorale, pour la population, pour moi-même. Hein, quand c'est une belle délicatesse de la part du Saint-Père qui s'unit là à ce que les gens vivent. Il s'associe à la prière, par la prière. Vraiment une belle consolation. Dès que je l'ai communiqué au curé, il m'a immédiatement répondu en disant comment il était touché de cette sollicitude.
Vous évoquiez tout à l'heure un peu les sentiments qui traversent cette population du lac Mégantic. Vous avez parlé de tristesse, évidemment, de douleur, mais aussi de colère. Pourquoi exactement?
Mais écoutez, c'est que la population réalise que ce train qui transporte souvent et très régulièrement des marchandises dangereuses passe en plein centre-ville de lac Mégantic, comme il traverse aussi d'autres villes et villages. C'est un constat en disant vraiment, et étions-nous vraiment en sécurité? À l'avenir, que ferons-nous? Il y a une grande inquiétude qui est née chez les gens. Je voyais dimanche une dame qui me dit, écoutez, Monseigneur, j'habite tout près de la voie ferrée, je ne veux plus retourner chez moi. Les gens sont traumatisés par ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils ont vu, hein, les explosions. C'était vraiment terrifiant. Hein. Alors, c'est pour ça que les gens réagissent en disant, mais qu'allons-nous faire avec cette compagnie qui transporte des matières dangereuses, qui traverse des villes? Alors, donc, c'est un constat vraiment là qui fait réagir la population.
Beaucoup de dégâts, donc. Surtout, quelque chose qui préoccupe les autorités, ce sont les conséquences écologiques que pourrait avoir cet accident.
Oui, exactement. Parce que, disons, lac Mégantic est situé près d'un très joli lac. Et en plus, la rivière Chaudière, qui descend vers la ville de Québec, alimente en eau potable plusieurs villes et villages le long de son cours. Mais par contre, certains écologistes, certains spécialistes disent que c'est un produit qui demeure en surface des cours d'eau. Donc, c'est un point de vue un peu rassurant. Il faut dire aussi en même temps que c'est une communauté qui est très solidaire. Les gens sont très solidaires, beaucoup d'entraide. Les gens ont vraiment mis la main pour rendre service, pour accueillir ceux qui étaient sans logis, pour les nourrir. Les commerçants ont fait beaucoup pour nourrir cette population. Et aussi au niveau pastoral, le curé, le vicaire, les diacres permanents, l'agent de pastoral, ils étaient présents sur le terrain pour écouter, pour vraiment écouter les personnes. Et là, nous sommes justement, je quitte bientôt, pour aller vers avec eux à Lac Mégantic pour préparer la suite maintenant, pour qu'on puisse mettre en place un service d'accueil pastoral, parce que quand arriveront les 35, 40, 50 familles pour les funérailles, le curé et son équipe auront besoin d'un soutien. C'est ce qu'on veut leur assurer. J'invite toutes les communautés à prier pour ces gens. Et comme je leur disais dimanche, moi je prie pour que Dieu leur donne la force pour pas qu'ils ne se découragent vraiment.
Monseigneur Luc Cyr, archevêque de Sherbrooke, un témoignage que vous pouvez retrouver sur notre site internet www.radiovaticana.va. À la veille de l'examen en France à l'Assemblée nationale de la proposition de loi concernant la recherche sur l'embryon, Mgr Pierre Dornelas, au nom de la Conférence des évêques de France, a souhaité mardi l'ouverture d'un large débat. L'archevêque de Rennes, qui travaille sur les questions de bioéthique pour la Conférence des évêques de France, rappelle dans un communiqué que nul n'est une personne sans avoir été d'abord un embryon humain. Pour lui, le choix entre le principe d'interdiction et l'autorisation encadrée doit faire l'objet d'un vrai débat qui conduisent sereinement à une solution de progrès. Antonino Gallofaro.
Faut-il avoir peur du débat ? Certainement pas. Monseigneur Dornelas est très clair sur la nécessité d'écoute et de dialogue. Ces derniers mois, souligne-t-il, ont montré à tous à quel point la faute politique est grande de ne pas organiser le débat pour que chacun puisse s'exprimer, écouter et réfléchir, en particulier sur les questions sociétales. Les états généraux de la bioéthique en 2009 en sont l'exemple. Ils ont permis un vrai dialogue entre les composantes de la société. Ce n'est pas sans raison, solidement établi, que ce débat de bioéthique s'est conclu en juillet 2011 par le maintien dans la loi du principe d'interdiction de la recherche sur l'embryon humain et sur les cellules souches embryonnaires. Certains veulent aujourd'hui que cette recherche soit autorisée, moyennant un encadrement. L'enjeu est majeur. Avec l'autorisation, pour la première fois, il serait légal d'utiliser l'être humain. C'est pourquoi le législateur de 2011 a pensé nécessaire de mettre dans la loi que tout changement législatif sur la bioéthique devra être précédé d'un débat sous forme d'états généraux. Mgr Dornelas s'interroge donc, pourquoi cet article de loi ne s'appliquerait-il pas à la recherche sur l'embryon humain ? Pourquoi avoir peur du débat en confinant aujourd'hui l'examen de cette question dans une soirée parlementaire ? Un vrai débat qui conduit sereinement à une solution de progrès. Or, indique l'archevêque de Rennes, le progrès n'est vrai que si éthique et science sont reliées. Le principe d'interdiction de recherche sur l'embryon humain, poursuit-il, alerte sur l'existence de l'écosystème humain. Pour lui, ne pas le respecter se retourne toujours, à plus ou moins longue échéance, contre nous. La science ne peut guider les choix politiques. À Mgr Dornelas de conclure, ceux-ci doivent discerner comment l'écosystème humain qui précède l'État est promu, l'écologie, aussi nécessaire qu'urgente, est aussi humaine.
Le mariage pour tous continue de faire débat en France. Après sa promulgation, Mgr Dominique Ray, évêque de Fréjus-Toulon, dénonce une police de la pensée qui se met progressivement en place. Elle consiste à disqualifier toute opinion qui remettrait en cause le mariage homosexuel comme si celle-ci constituait en soi un délit. Dans une lettre de 3 pages adressée à ses diocésains, Mgr Ray les invite à faire valoir leur droit à l'objection de conscience contre une loi moralement injuste. La démocratie qui fait alliance avec le relativisme éthique risque de consacrer le règne de l'arbitraire et de se transformer en un totalitarisme sournois ou déclaré, écrit-il, dénonçant le caractère extrêmement minoritaire de la revendication d'un mariage dit homosexuel imposé par une élite intellectuelle et politique puissamment relayée par les médias. Mgr Ray s'insurge également contre les avancées de l'idéologie dite du gender. Sous couvert de faire droit à la part de construction sociale dont est revêtue la sexualité, affirme-t-il, on en vient à contester que le sexe soit une donnée de nature enracinée dans la corporéité et qui caractérise toute la personne humaine. Le président de la Conférence des évêques de France depuis le 1er juillet dernier, Mgr Georges Pontier, archevêque de Marseille, a présenté la façon dont il envisage sa mission. Il se positionne au service des évêques de France au sein d'une équipe pour un travail en communion et dans un souci de soutien et collaboration avec les services nationaux. Il entend notamment redonner le goût de Dieu dans le contexte actuel où l'indifférence religieuse touche même les croyants, mais aussi faire connaître la doctrine sociale de l'Église et clarifier la figure du prêtre, travailler à une image plus claire de la mission et de la place du prêtre dans la communauté chrétienne. Et puis avant de refermer ce magazine, ce dernier tweet, publié ce mardi par le pape François, « Si nous voulons suivre le Christ de près, nous ne pouvons pas chercher une vie facile et tranquille, elle sera engagée mais pleine de joie ». À noter que le compte Pontifex en 9 langues sur le réseau social Twitter a dépassé les 7 300 000 abonnés. C'est la fin de ce magazine. Merci de l'avoir suivi.